prévu un texte de cadrage, je pourrais le faire sauter, mais en même temps ça m'embêterait parce que justement c'est pour cadrer la journée. Bon voilà, tout a été dit, donc j'enchaîne, je suis sociologue et post-doctorant dans le cadre de Dédale. Et donc j'ai été référent, comme on dit, je me suis occupé du contenu, je vous ai rencontré, on a discuté, voilà. Et puis voilà, en préambule aussi, cette journée est le fruit d'un travail de terrain d'un an, avec des entretiens, des observations avec le collectif Armodo, le SOFEST, qui sont ici présents, donc les arts Armodo. Et donc c'est une forme voilà, d'aboutissement de tout ce travail, même si il y aura d'autres valorisations derrière, bien évidemment, avec des articles, etc. Donc quoi qu'il en soit, on pourrait commencer cette journée de deux manières très différentes. Que les émissions de carbone augmentent, que les budgets baissent, que les artistes sont précaires, et conclure qu'il faudrait changer les choses sans vraiment se dire pourquoi ça ne se fait pas. Ou ne pas vraiment savoir par où commencer pour que ça change. C'est autrement que nous avons choisi d'organiser cette journée, c'est bien la marque de Dédale, hein, faire autrement. Ce que nous voulons faire, c'est d'abord comprendre la nature du problème pour penser sérieusement à la nature de la réponse. Et donc le mot « doux », c'est le terme qu'Armodo a forgé, ce réseau européen d'artistes à mode doux, pour nommer ce qu'ils font, hein. Et ça ne désigne pas simplement que les moyens de transport. C'est une contre-conception de ce que peut être une tournée artistique. Ces artistes, ils vont vous en parler, hein, inversent le paradigme dominant. Plutôt que de faire venir le public vers un lieu de culture, ils vont directement vers eux, traversant les territoires, dans le spectacle, dans le respect du vivant. Et depuis une dizaine d'années, hein, les discours institutionnels, y compris tenus par les acteurs et actrices de la culture sur la nécessité de transformer le secteur culturel, n'ont jamais été si nombreux. Abondent des rapports, des feuilles de route, des appels à projets, des manifestes. Mais malgré cela, les dégradations environnementales s'aggravent, la concentration économique dans le spectacle vivant s'accélère, et les artistes les plus engagés dans la transition supportent seuls les coûts de ce qu'on leur demande collectivement de faire. Ce paradoxe entre, d'une part, l'inflation des discours sur le changement et d'autre part, l'aggravation de la situation, c'est précisément ce que les sciences sociales permettent d'expliquer. L'inaction environnementale est le produit d'un ordre social qui tend à naturaliser les conditions de sa propre perpétuation. C'est pourtant ça qu'il faut changer. Les dégradations environnementales ont une origine sociale. Les dégradations, c'est-à-dire qu'elles découlent d'un mode d'organisation fondé sur l'accumulation d'unité, traversé par des rapports de domination qui structurent nos institutions, façonne des subjectivités et organise un accès inégal aux ressources, y compris naturelles, qui permettent de garantir et de reproduire nos conditions d'existence. Les verrous au changement ne sont donc pas d'abord une question de biologie, d'ingénierie, d'économie ou que sais-je, c'est une question d'ordre social d'abord. Et cette domination ne repose pas essentiellement sur la coercition, c'est-à-dire la domination, celle qui vient justifier effectivement cet ordre social. Qui repose sur l'accumulation d'unité. Voilà, elle repose sur la production d'un système de croyance dans son bien fondé, c'est pas grave. C'est le rôle de l'idéologie dominante que de façonner la vision légitime de ce qui doit être transformé ou non, des critères et de l'intensité du changement à opérer, des moyens d'y parvenir. Le verrou n'est donc pas que les gens ne soient pas au courant du péril en cours. Le verrou d'un point de vue culturel, c'est que l'ordre social produit des représentations qui rendent le changement structurel difficile à penser et encore plus à faire. Deux réponses dominantes existent face à ça, y compris dans le spectacle vivant. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler, ce qu'un sociologue appelle d'ailleurs Jean-Baptiste Combi, un réformisme du capitalisme vert qui dépolitise la question en faisant peser la responsabilité sur les individus, hein, donc c'est les bilans carbone, les spectateurs qui doivent prendre le vélo individuellement pour réduire leur empreinte carbone. Sans remettre en question les structures de la production. On peut très bien faire des giga-événements et tout le monde ira à vélo, ça ne réglera pas le problème. De l'autre, une critique qui mise sur l'exemple la reproductibilité des pratiques, la démonstration concrète que c'est possible, deux approches que tout semble opposer et qui font pourtant preuve d'une même cécité sociale. Elles sous-estiment les verrous sociaux qui rendent un ordre social difficile à transformer. Plusieurs d'entre vous ici font de la sensibilisation, de la formation, de la pédagogie écologique, produisent des expertises, et c'est pas ce que je veux mettre en cause par mon discours. Et vous êtes d'ailleurs nombreux et nombreuses à en constater vous-même les limites. On en a discuté en entretien, c'est avéré. La question n'est pas tant d'informer davantage, mais de comprendre pourquoi les structures qui permettraient la transformation restent inchangées. C'est ici que les ICC prennent une importance particulière, mais pas pour les raisons qu'on invoque souvent. Le champ culturel est le lieu où se produisent et se légitiment les représentations collectives de ce qui est désirable, normal, possible. Les conditions matérielles dans lesquelles les artistes travaillent, les formats qu'ils peuvent ou ne peuvent pas défendre, les lieux où ils diffusent, les institutions qui les financent ou les ignorent, tout cela dit quelque chose de ce que peut ou ne, ce qu'on ne peut ou ce qu'on ne peut pas contester à l'intérieur. Ce n'est donc pas tant ce que les artistes et les acteurs et actrices disent à leur public qui importe ici, que ce que leurs conditions d'existence et de travail révèlent les mécanismes qui rendent les alternatives possibles ou impossibles. L'injonction à la sobriété, à la transition écologique, à faire autrement, arrive après 2 décennies du retrait de l'État social. Ce même retrait touche de plein fouet les professions artistiques, culturelles, dont l'ascension collective s'est précisément construite sur le développement de l'État social et de ses institutions culturelles. Ce sont les réformes successives depuis les années 2000 qui ont progressivement démantelé les conditions qui rendaient ces trajectoires envisageables, possibles, désirables potentiellement, au profit de la mise en concurrence, rappelez-vous, de la crise d'attractivité durant le Covid. Il faut la lire aussi à partir de cette histoire-là. C'est dans ce contexte que l'injonction à l'écologisation arrive. Et le risque est réel que la sobriété serve moins de levier de transformation que de caution morale à un désengagement bien avancé en faisant passer pour un choix éthique ce qui est d'abord une contrainte structurelle. On va devoir de toute façon transitionner. C'est comme ça. Alors, au bout d'un moment, il n'y aura plus de pétrole. Travailler sur les artistes en mobilité douce, sur ces artistes ordinaires qui sont majoritaires en nombre et minoritaires dans les représentations et qui sont le plus souvent obligés de faire autrement, c'est aussi travailler sur des enjeux de classe qui ne sont pas toujours nommés comme tels. Être artiste, y compris ordinaire, y compris alternatif, c'est un marqueur social. C'est une position qui suppose le plus souvent un certain niveau de formation, un certain rapport au temps, à la mobilité, fût-elle douce, à l'incertitude économique, autant de dispositions qui ne sont pas également distribuées dans l'espace social. Ce n'est pas un procès à faire aux artistes présents ici, hein. Vous avez d'ailleurs de bonnes raisons de faire de l'écologie un engagement. Mais c'est un fait social qu'il faut regarder en face. Parce que si on ne comprend pas cette dimension, on risque de produire des effets inverses à ceux que l'on recherche. C'est-à-dire une écologie culturelle portée par une fraction de classe qui dispose du capital culturel nécessaire pour légitimer ses choix de vie, peut très vite se retourner contre ceux qu'elle prétend inclure au nom du lien social. Chercher à sensibiliser les classes populaires revient souvent à les culpabiliser pour leur mode de déplacement, leur consommation, leur pratique culturelle. Valoriser son mode de vie sobre par la création artistique revient à produire une norme écologique à l'image de ceux qui la portent, qui exclut de fait ceux qui n'ont pas les ressources pour s'y conformer. Rappelons pourtant que les classes populaires polluent objectivement le moins, subissent le plus durablement les effets de la crise environnementale et font le plus l'objet d'injonctions au changement de leur comportement. Tout cela revient à produire du ressentiment et pas la transformation. On ne transformera pas les pratiques en produisant une écologie d'en haut. C'est-à-dire, ce n'est pas les DRAC qui vont décider de quelle écologie il faudra valoriser dans la culture. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est précisément pour... Enfin, il faut travailler avec eux, mais vous voyez comment ça se passe. Il faut travailler des pratiques ordinaires. C'est précisément pour cela que nous avons choisi avec Dédale de travailler avec vous. Cette journée est d'ailleurs le fruit d'une enquête, comme je l'ai dit, hein, avec le collectif Armodo, le SLOFES, mais aussi la région Nouvelle-Aquitaine qui s'y présente, mais aussi le département de la Gironde. Voilà, donc je remercie de leur présence. Et elle s'inscrit voilà, dans une collaboration ancienne, on l'a rappelé, avec Eric, Ouvre la Voie, voilà, ce premier festival à vélo quand même. Donc voilà, c'est important de le rappeler. Donc l'objectif n'est pas d'apporter des réponses depuis l'extérieur, comme l'a dit Solveig, comme l'a dit Luc, hein, se rencontrer justement, et de se doter ensemble, collectivement, des moyens qui permettent de comprendre dans quelle logique sociale ces pratiques alternatives s'inscrivent, sans se raconter d'histoire, et en essayant de dessiner des perspectives à la hauteur des enjeux aussi. Quoi. Donc la question que nous posons aujourd'hui, voilà, ce double regard critique et constructif hein, que nous voulons mettre au travail collectivement, et la question que nous posons aujourd'hui est donc celle du programme, hein, comment ces pratiques qui restent marginalisées peuvent-elles contribuer à une transformation structurelle du secteur ? Pas en esquivant les obstacles, mais en les comprenant. Et donc voilà, la matinée qui est déjà bien engagée un peu en retard, bon, elle va commencer sur deux tables rondes. Voilà, comment grossir sans se trahir, ou ralentir sans tomber, j'espère que ça vous a mis ce jeu de mots. La deuxième table ronde questionnera plutôt la question du travail. Qu'est-ce que c'est que travailler en tant qu'artiste à mode vie ? Et aussi des perspectives derrière de reconnaissance de ce travail. Et donc, j'appelle à la barre les premières personnes intervenantes de la table ronde. Merci. Les invités, nous avons David Carole du SOFEST, donc SOFEST, François Garin de Musique à la rue, merci à vous, Amandine Reynaud, donc, conseillère du département à la région, Amélie Chabot, donc à la région de l'Aquitaine, chargée de la transition notamment, et Élie Bureau, qui est sociologue, MCF, maître de conférence pardon, à l'université de Clermont-Ferrand, Auvergne. Voilà, donc, je vous... Et pardon, c'est vrai, Mathieu, qu'on a rajouté, mais en fait, le petit malin, il s'est rajouté sur la table ronde au dernier moment. Tu as été obligé. Voilà. Et donc, Mathieu, comédien de Big Théâtre. Ça te va, circassien, comédien ?
Très bien, formidable.
Voilà, ok. Donc, petit texte d'introduction. Voilà, le mode doux constitue... Peut-il constituer une proposition culturelle à part entière avec ses propres critères de qualité, donc souvent considéré comme un sous-spectacle, hein, d'après les artistes, c'est une vie. Il reste exposé à une double suspicion, hein, celle d'être l'habillage moral d'une précarité subie et celle aussi d'être un choix réservé et que à ceux qui peuvent se permettre de le choisir. Quoi. Donc ces questions ne sont pas abstraites, elles s'inscrivent dans une séquence. Historique assez précise, c'est-à-dire que le développement des pratiques en mobilité douce, surtout en mode doux dans la culture, est très lié à la crise du Covid, qui a constitué un catalyseur décisif. Hein. L'arrêt des tournées conventionnelles, la hausse du carburant, les plans de relance ont rendu pensables des expérimentations que rien ne rendait viable auparavant. Quoi. Et ça a dégagé du temps aussi pour ça. Quoi. C'est dans cette conjoncture qu'Armodo, donc le réseau qui me concerne aujourd'hui, s'est structuré, que le SOFEST a développé aussi ses activités notamment, il avait démarré avant, mais que des compagnies ont bifurqué vers ce format itinérant en mode. Et Musique à la rue, donc ce festival bien connu aujourd'hui des Bordelais et du Sud-Ouest, qui est dans les Landes à Luxeuil, incarne ce moment aussi parce qu'en 2022, donc toujours dans la même temporalité, le festival a utilisé le recours à l'équilibre, notamment par les plans de relance, si je me souviens bien, on en parlera, mais en tout cas a réduit ses jauges, a décidé de réduire ses jauges en 2022, de 5000 personnes si ma mémoire est bonne. Donc ce contexte a aujourd'hui radicalement changé, hein, le recours à la rigueur budgétaire et les baisses de financement culturel ont refermé un petit peu le. Et refaire en ce moment brutalement le champ des possibles et des expérimentations, je pense qu'on va en discuter. La question n'est donc pas seulement de savoir si le mode doux peut imposer ses propres critères de légitimité, mais c'est dans quelles conditions structurelles cela reste possible. Et donc, pour parler, je voudrais vous poser un fil rouge ensemble. On va commencer par ça, c'est justement cette décision de Musique à la rue, donc du coup, de réduire sa jauge. Donc de 15 000 spectateurs en 2022, il me semble, donc 5 000 par jour. Voilà, et donc j'aimerais savoir dans quel contexte ça s'est fait, peut-être rappeler François le projet au-delà de Musique à la rue, parce que c'est un projet socioculturel qui est porté à l'année, en fait, et peut-être rappeler voilà, ce contexte-là dans lequel vous intervenez, tu interviens, et dans quel contexte intervient aussi cette prise de décision de réduire les jeunes. Voilà.
Bonjour, merci pour votre invitation, vous êtes très honoré d'être parmi vous. Donc je m'appelle François Garin, je suis président de cette association Musique à la rue, donc je suis bénévole et je fais partie des imbéciles heureux qui sont nés quelque part, donc à Luxeuil. Pour arriver à traiter du thème de grossir sans tomber ou d'aller vers la décroissance, je suis forcément obligé de planter le décor pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce projet ni l'endroit où il se trouve. Luxeuil, c'est un village de la Haute-Lande, 700 habitants, en plein cœur du massif forestier landais, plutôt entre Bordeaux et Mont-de-Marsan. Luxeuil, c'est 16 000 hectares de pins, 4 hectares au kilomètre carré. Donc, vous avez conclu, c'est un endroit pauvre, très, très enclavé. Et pourtant, c'est dans ce village qu'a lieu le festival estival, qui a été créé en 90 et qui fêtera en 2026 sa 36e édition. Au cas où vous n'auriez pas repéré les dates dans l'agenda, c'est le 31 juillet, le 1er et le 2 août. C'est un festival qui se déroule au cœur du village, et à peu près 45 000 festivaliers viennent depuis 2022 assister à des spectacles de rue et voir des concerts avec des artistes à la fois à l'émergence, mais aussi avec des têtes d'affiche. Ce festival n'a de sens et n'a d'intérêt que parce qu'il est prolongé par une programmation artistique tout au long de l'année. Ça ne sert à rien que naturellement les cigales chantent d'été si un travail de fourmi n'a pas lieu et n'est pas proposé tout au long de l'année. Ce projet culturel de territoire, c'est comme ça qu'il s'intitule, se décline autour de trois grosses actions. La première s'appelle « Musique à la rue à domicile ». On amène des artistes dans des lieux insolites, et pas d'hôpital, sans pénitentiaire, aire d'autoroute, centre commercial, mais aussi dans les salles à manger des habitants de la communauté de communes. Ça va d'ailleurs commencer, c'est un projet qui date de 2006, et on attaque ça dans 15 jours pour deux week-ends dans les salles à manger des habitants de chez nous. Deuxième grosse action, ça s'appelle « Musique à la rue sur un plateau », ça existe depuis 2007, c'est l'accompagnement d'artistes en voie de professionnalisation qui sont réunis début mai. Cette année, ce sera le 2 mai, et on met en scène ces pratiques-là. Il y a un peu de spectacles de rue et beaucoup de concerts. Troisième grosse action qui existe à Luxeuil depuis 2015, Musique à la rue gère la salle de spectacle qui s'appelle Les Cigales. C'est une salle communautaire qu'on a demandé, qu'on a eu et qu'on gère. Elle est ouverte tous les jours pour proposer des spectacles professionnels, des résidences de création, des ateliers jeunes artistes, des conférences, des réunions, et nos salariés y ont leur bureau. Je vais partir assez rapidement ce matin parce que cette semaine, il y avait des artistes qui étaient en résidence, notamment c'était la rue qui est à nous, et ce soir il y a trois concerts à Luxeuil au Cigale. Vous avez compris, c'est une association, loi 1901, qui porte ce projet. Elle est à but lucratif à gestion des intéressés. Nous avons 10 salariés à plein temps. Nous mobilisons 1000 bénévoles l'été pour le festival et une centaine pour les activités à l'année. Le modèle économique de ce projet, le budget prévisionnel de 2026 est de 4 315 000 euros. Les recettes espérés qui sont en général assumés 66% d'autofinancement avec la billetterie et les produits de bouche, 17% de subventions publiques et 17% de mécénat culturel. C'était important de positionner ces paramètres-là pour comprendre comment nous avons décidé un jour que le festival devait avoir une autre configuration. Vous imaginez que tous les organisateurs de spectacles s'inquiètent de la fréquentation du public. Donc on a tous une dynamique, une volonté de faire venir le public chez nous. Nous ne décrétons pas du jour au lendemain qu'on va l'accueillir 5 000, 7 000 ou 8 000, on les voit venir. Et quand ils sont là, il faut les gérer et il faut s'en occuper. C'est ainsi qu'en 2019, le village a été assailli par 60 262 spectateurs. Ça faisait des soirées à Vermille dans le village. Il y avait des embouteillages et des bouchons pour venir à Luxeuil. Improbable. les parkings étaient saturés, les campings n'en parlons pas. Il y avait quelqu'un, un journaliste qui avait titré Luxeuil ou Stock sous les pères. Bel hommage, mais une certaine difficulté à gérer. Aller d'une scène à l'autre, puisque dans le village et dans le projet de musique à la rue du festival, c'est 15 lieux scéniques, et on se promène de l'endroit à l'autre, les gens avaient du mal à aller de l'endroit à l'autre. C'est pour ça que en 2022, vous avez noté qu'entre-temps, 2020 et 2021, on a été mis au chômage technique, on a été confronté au Covid, et il ne s'est pas passé grand-chose, rien passé en 2020, et en 2021, on a fait quelque chose, mais dans un format complètement différent. Donc, en 2022, on considère que ce festival est en danger s'il ne modifie pas la jauge et la venue du public. Et donc on passe de 20 000 spectateurs chaque soir à 15 000. Les gens ont été enchantés. Personne ne nous a demandé si ça avait des conséquences sur le modèle économique. Personne. Alors on a quand même réuni nos partenaires publics, les questionnant sur à la fois leur possibilité budgétaire d'accompagner ce nouveau projet, en sachant aussi que nos actions à l'année, celles que je viens de décrire assez rapidement, très sociales, avec parfois de la gratuité, avec des petits tarifs, des petits prix, elles sont déficitaires. Tous ceux qui gèrent une salle de spectacle, à part leur school barbé, sont déficitaires. Les élections sont terminées, on se sérieux. Les nouvelles négociations ne sont pas entamées. Mais bientôt. Donc, forcément, ils nous ont apporté les réponses que les collectivités apportent en ce moment, à savoir que les marges budgétaires des collectivités sont limitées. Elles ont maintenu, d'une certaine manière, leur budget, dans le meilleur des cas, et dans le plus mauvais des cas, les budgets ont baissé. Donc, bien que nous soyons confrontés à cette difficulté budgétaire, on a décidé de jouer la carte de la décroissance. Vous avez compris qu'il s'agissait de la pérennité du festival qui était en jeu. Il fallait que les gens aient envie de revenir à Luxeuil. Il fallait aussi, d'une certaine manière, adapter le format aux infrastructures du village qui, elles, ne peuvent pas bouger. Des rues, des cours.
J'avais une question, c'était justement là-dessus, c'est vrai que, comme tu as dit, vous êtes passé de, c'est pour la survie du festival, à une valorisation, quelque part, du festival pour son désir de décroissance aussi. Je suppose que, pour aussi avoir des fonds, ça a dû aider aussi, vous êtes allé voir peut-être des collectivités pour leur dire, écoutez, on veut être décroissant, on veut répondre aux guides d'orientation du ministère de la Culture peut-être là-dessus, je ne sais pas, mais est-ce que c'est à ce moment-là que c'est devenu un argument aussi pour la musique à la rue, à quel moment en fait la question de l'écologie est venue même dans votre, dans votre manière de penser ce nouveau festival, quoi.
C'était la phrase suivante.
Pardon.
Non, mais c'est ton métier. Tout va bien. Donc, je parlais de la pérennité du festival, et ensuite, le deuxième gros argument, c'était protéger l'environnement dans lequel il se déroulait. Un massif forestier, un village avec ses limites. Donc, notre projet, c'était d'une certaine manière donner de la vie, parce que ces villages en manquent et sont menacés. Disparition de services publics, vieillissement de la population, donner de la vie en essayant de protéger le vivant. Donc il s'agissait de se développer sans se fragiliser, sans dénaturer le projet, mais en essayant de mieux consommer, moins consommer, et puis de mettre en place tous les leviers possibles pour, bien sûr, l'empreinte carbone, mais aussi les réductions du volume d'eau utilisé, ainsi de suite. Ça veut dire que quand on est au-delà de nos besoins objectifs, on est allé voir les collectivités, elles n'avaient aucune marge de manœuvre. Aucune marge. Toutes les réponses ont été polies, encourageantes, mais elles n'ont pas amené des réponses sur le plan budgétaire. Donc on a été confronté à de la décroissance et se débrouiller tout seul. Qu'est-ce qu'on a fait?
Premièrement,
on a essayé de réduire le déficit à la nuit, en étant plus précis sur les choix des spectacles. Dans la salle de spectacle, on peut aller sur une jauge à 250 assis ou des jauges à 600 debout. On a parfois privilégié des concerts debout. Voilà, on a été attentif au déficit de nos activités à l'année. Le festival a proposé des tarifs plus importants. On avait un rapport qualité-prix trop décalé par rapport aux autres. On est obligé d'augmenter un peu les tarifs. Et ensuite, on a appuyé très fort sur le mécénat culturel, avec une commission qui traite ça, une sous-commission qui se réunit toutes les semaines, une salariée dédiée, des dirigeants bénévoles qui sont engagés, et surtout un environnement qui est quand même assez propice. Même si nous sommes paumés dans un lieu enclavé, il y a quelques grosses entreprises auxquelles on a tenu le discours suivant. Si vous voulez faire venir des ouvriers qualifiés, des professionnels qualifiés sur notre territoire, vous proposez des emplois qualifiés, c'est excellent. On peut encore se loger et se soigner correctement. Il y a des établissements d'éducation, mais si on veut faire venir des gens sur notre territoire, il faut qu'il y ait une offre culturelle et une offre de sport par chez nous. Et c'est avec ce discours-là, plus le bon regard que la manifestation génère, plutôt familial, plutôt à taille humaine, c'était aussi des objectifs de conserver tout ça, qu'on est pu tomber sur des entrepreneurs qui sont venus assez forts et qui nous ont permis d'équilibrer nos budgets et de rattraper le manque gagné pour le festival. Absolument.
Voilà, absolument. Merci beaucoup. Là, on voit bien en quoi l'aspect territorialisation, c'est-à-dire aussi faire, en étant ancré avec les acteurs du coin, les acteurs et actrices du coin, pour dans un but commun, on voit bien que ça se fait avec les gens qui sont du coin aussi, quoi. Et c'est un peu ça le but aussi qu'on va travailler, parce que les artistes sont dans ces mêmes configurations-là, ils doivent aussi travailler avec les gens qui sont autour des endroits où ils vont jouer. En un mot quand même, assez rapidement, Mathieu, désolé, un peu contraint, ça déborde un peu. Ça me paraît intéressant aussi que tu racontes un peu ton expérience de ta dernière tournée familiale. Alors, il est parti en tournée en famille avec les enfants à vélo, et la tournée s'est terminée, effectivement, à Musique à la rue, ce qui a du sens par rapport à ce nouveau modèle qui est mis en place avec Musique à la rue. Donc, est-ce que toi, de ton point de vue d'artiste, tu peux nous dire en deux mots quand même, comment vous avez construit cette tournée et quelle expérience on a faite aussi d'arriver à la fin Musique à la rue dans cet endroit qui a aussi un lieu qui vous accueille, qui fait le même choix que vous, quoi, quelque part.
Moi je suis Mathieu Siefrich, je travaille avec une compagnie qui s'appelle Public Théâtre, et effectivement en début d'année 2025, Musique à la rue nous contacte, intéressé pour acheter notre spectacle dans le cadre de sa programmation, spectacle vivant, qui est quand même assez important dans un village, tout ça. Il se trouve que moi je travaillais sur un projet d'itinérance dans ce coin-là. J'avais déjà travaillé avec, cherché des partenaires, et tout d'un coup, là, Musique à la rue nous propose plus d'une série de dates. On se dit, bah super, on en profite, on fait une itinérance à vélo, parce que nous, c'est ça qu'on fait. Le spectacle Karina qu'on a créé en 2022, il a vraiment été conçu pour tourner à vélo. C'est un projet professionnel de spectacle vivant qui mélange le théâtre sans parole, le cirque et les marionnettes. Et il a vraiment été, avec la contrainte de départ, c'était de pouvoir le trimballer dans nos sacoches à vélo. J'avais travaillé ce projet, et tout d'un coup, le fait d'avoir Musique à la rue nous a permis de continuer à écrire ça. Et au printemps 2025, la ministre de la Culture a annoncé une enveloppe et a réouvert l'été culturel. Et tout d'un coup, elle nous a dit, cette année, cet été, la culture va avoir lieu dans les campings. Et moi, tous les partenaires que j'avais contactés, c'était des campings et des lieux médico-éducatifs sur la route.
avec une petite incise juste rapide pour dire que ça a été décrié par la profession en disant que on nous dévalorise quoi. Ce que vous nous proposez, c'est des campings, mais c'est pas pour dire qu'il faut pas jouer dans des campings, mais c'est pour dire que c'est elle appelle ça un grand plan, mais je sais comment elle avait appelé ça, alors que c'était quelques millions.
Quelques miettes, ça paraît gros comme ça, mais en vrai ça représentait pas énorme. Et ça pose plein de questions après en termes de débrief, c'est un autre sujet. En tout cas, du coup, nous, ça nous a permis de monter cette itinérance à cheval sur 3 départements. Et il se trouve qu'on a été aidés, en fait, ce projet, il a été rendu possible par l'aide de ce dispositif soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, puisque du coup, on était en itinérance sur 3 départements. On partait de Lot-et-Garonne à Agen, et on remontait comme ça, en grande partie dans le parc naturel régional des Landes et des Gascognes, et on traversait la Gironde pour arriver à Luxeuil, dans les Landes, terminer cette tournée. Enfin, après, on est allé récupérer notre train à Langon, parce qu'on fait un mélange de vélo-train. Que dire à cette question, parce que, pardon, j'ai pas beaucoup de préparation, parce qu'on en a parlé hier soir, tiens, t'es là, vas-y, viens poser ton histoire. À la question de grossir sans se trahir et ralentir sans tomber, j'ajoute juste de là où je parle. Nous, on a la compagnie Oblique Théâtre, on a une chance, c'est qu'on est conventionné par la DRAC Occitanie, on est des voisins d'ici, depuis 2023, ce qui est une forme de reconnaissance institutionnelle, et pas des moindres. Et donc, quand on dépose ce projet d'itinérance à Mobdou, par ailleurs, la compagnie elle est adhérente à Armodo, on est quand même les copains ici présents, on essaye d'activer des leviers comme on peut entre nous pour partager sur nos pratiques, mais je pense que David aura l'occasion d'en reparler plus avant. Mais en tout cas, tout d'un coup, d'avoir cette estampille d'un conventionnement de la DRAC, donc du ministère de la Culture délocalisé, ça permet de faire à la région Nouvelle-Aquitaine un partenaire de poids comme Musique à la Rue, de dire oui, effectivement, votre projet, il semble viable. On finance, on a demandé 5 000 euros, ils nous ont donné 5 000 euros. Et grâce à ça, on a pu doubler, agir sur les territoires, rencontrer des publics, aller jouer pour des gens en situation de handicap dans des endroits assez magiques, en pleine forêt des Landes. Et voilà, ça nous a permis de faire des rencontres. Parce que l'idée, finalement, à Musique à la Rue, on a joué pour des très grandes jauges, mais grâce à l'argent public en partie, et à des fonds propres de la compagnie aussi qui a mis un peu de sous, c'était de permettre à des gens qui n'auraient pas forcément accès, en allant chez eux, justement ces gens du foyer à la Taillade, là, qui est sur le département de Lot-et-Garonne, à Pampogne, en plein milieu d'une chênerie magnifique, c'est des gens qui vivent là à l'année, c'est 70 personnes qui sont habitants d'un foyer de vie, et on a ramené des jeunes de l'IME, etc. Enfin, ça a permis vraiment d'aller jouer. Du coup, nous, c'est ça qu'on défend, je pense, en mode doux, c'est que on va, comme on traverse des territoires, on a le temps de rencontrer les gens, on se pose un certain temps, et du coup, on va au-devant des gens.
Merci. Ouais. Bon, ce qui est vachement intéressant de dire, effectivement, pour transitionner, bon, et encore une fois, bifurquer, voilà, je n'ai pas les mots pour ça, mais y compris en famille, avec tout ce que ça demande, vous êtes reposé sur une reconnaissance aussi artistique par le champ culturel, qui a permis aussi de pouvoir financer donner des moyens pour ça. Et ça, c'est important de le dire, effectivement. Voilà, parce qu'on pourrait dire faire autrement, mais oui, mais faites-le dans votre coin, sans argent, etc. Voilà, c'est pas le message qui est. Ceux qui ont pensé la construction du réseau, notamment pour beaucoup, avaient été déjà assez installés dans la profession artistique, quoi, ou du moins connaissaient pas mal les voyages administratifs. Quoi. Je voudrais qu'on passe maintenant à la deuxième séquence. De la table ronde. En fait, on avait pensé comme ça, c'est-à-dire que à Bordeaux, c'est même dans la région Nouvelle-Aquitaine et dans le département de la Gironde, et aussi à Bordeaux, on a des partenaires, des collectivités territoriales qui travaillent conjointement, notamment avec un projet qui s'appelle le SOFES, donc David est ici présent, et on va discuter de cette collaboration parce que ils sont assez, ils n'ont pas attendu qu'un guide d'orientation du ministère soit sorti pour commencer justement à mettre en œuvre une politique culturelle de transition écologique. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, on va commencer à discuter justement cette collaboration, comment elle s'est construite et qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui de l'état justement des avancements à ce niveau-là. Quoi. Donc pour la mise en contexte quand même, le CACT, donc
que c'est cette grande orientation de l'État qui est sortie pour la transition, est sortie en fin 2026. Et il doit être obligatoire pour 2026, mais il est sorti avant. Et entre-temps, il y a eu le bilan de la Cour des comptes pour dire qu'en 2025, la transition écologique, ça ne se passait pas très bien. Sur le territoire, il y avait un manque de collaboration entre les collectivités territoriales notamment, mais sauf ici. Et ça, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler là-dessus. Et donc, en premier lieu, pour parler, David, j'aimerais que tu parles de cette collaboration, comment tu travailles avec eux, qu'est-ce que ça t'a permis, puis peut-être parler aussi en point d'appui, discuter de ce DLA, qu'est-ce qu'il en est ressorti aussi. Parce que j'ai cru comprendre quand même que c'était avec un éco-conseiller avec qui tu avais discuté de ça, donc quelqu'un de la région, parce qu'ils vous ont financé justement le projet pendant un moment, et là ils vous ont dit en gros, ce DLA, il va falloir changer de modèle économique. Donc j'aimerais bien qu'on parle un peu de cette collaboration, comment ça s'est fait.
Oui, c'est vrai, je vais. Avant de dire ce que je pense du DLA, je vais dire qui je suis, d'où je viens. parce que donc moi je suis musicien, je viens vraiment de l'autoproduction, voilà, j'ai toujours il y a des chercheurs qui travaillent sur le punk et qui connaissent bien le sujet des. On peut les appeler des artistes entrepreneurs ou juste des voilà, moi c'est vraiment musique fabriquée avec peu de moyens dans la cave, et puis quand c'est prêt on sort et on va jouer dans les bars et au mieux dans des smacks. Donc assez loin des cercles culturels, institutionnels, drac, etc. Mais c'est des endroits que je découvre. En ayant initié donc Slowfest qui s'est pas mal développé, qui a été pas mal reconnu sur le territoire
en 2015, hein, c'est ça,
en 2015 on a démarré, ouais. Et avec le développement de ce collectif là qui est vraiment un endroit qui est peuplé d'artistes, de techniciens, de techniciennes qui ont le goût de fabriquer des trucs ensemble. Qu'on a été amené à rencontrer les collectivités, les institutionnels qui nous ont soutenus. C'est pas trop. Alors maintenant, dans l'équipe salariée de Slowfest, parce que moi je suis ni salarié ni même dans le bureau de l'asso, j'étais le fondateur du mouvement. J'étais dans le bureau pendant quelques années, mais aujourd'hui j'y suis plus. Donc dans l'équipe il y a des personnes qui sont formées pour interagir avec les institutions, mais c'est pas mon cas. Le DLA, je vous le dis tout de go, moi c'est un exercice vraiment dans lequel j'allais à reculons pour en plus en avoir déjà fait un avec une autre association dont Slowfest fait partie, qui est la Maison de la Nature et de l'Environnement, qui est le réseau des assos engagés pour l'environnement sur la Gironde, qui est l'endroit où Slowfest a eu son premier bureau. On avait fait un DLA
Peut-être que tu peux décrire un peu ce que ça a été pour
vous. Ouais, ça a été très très chiant. Enfin, c'est chiant pour les gens qui aiment faire des trucs et pas forcément discuter des plans. Mais il est vrai qu'à un moment, prendre le temps de discuter et prendre du recul sur ces activités qui deviennent structurantes, en fait, puisque ça fédère du monde. On interagit avec des collectivités un peu à tous les étages, avec beaucoup d'associations, se dire, ben ok, quel est finalement notre. Enfin voilà, réfléchir un petit peu à notre travail et notre place dans cet écosystème-là, ça s'est révélé intéressant. Mais c'est quand même vraiment.
Et au niveau de ce qui en est ressorti, du coup, parce que ce que j'avais cru comprendre, c'était que on vous a dit, on ne peut plus fonctionner sur des subventions à hauteur de comme auparavant.
Et on vous a, il me semble, proposé de vous tourner vers la formation, si je comprends
bien. Les subventions sur lesquelles on a été soutenu, en fait, c'était d'abord des subventions des domaines de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, de l'aide à la transition écologique. Toute première subvention, on a eu quelques milliers d'euros de l'ADEME pour construire des prototypes de sonos solaires, vélos tractés. Ensuite, on a été soutenu par la région sur des programmes d'aide à l'emploi de l'ESS. Et ensuite, sur... l'innovation sociale. Donc, c'est toujours des programmes vraiment sur la transition écologique et pas sur la culture. C'est le propre de ces programmes d'aide-là, c'est que ce sont des aides à l'investissement ou à l'amorçage d'une activité, mais ce n'est pas des aides au fonctionnement. Contrairement au mode de fonctionnement des subventions de la culture et de la DRAC, où il y a des compagnies qui sont conventionnées et qui donc ont un conventionnement, je ne sais même pas combien de temps ça dure, un conventionnement, c'est sur combien de temps ?
Entre 2 et 5.
Voilà, où pendant 2 et 5 ans, vous avez un soutien qui vous permet de vous structurer, d'écrire, de fonctionner. En effet, le DLA a permis de mettre en évidence donc la non-pérennité du type d'aide sur lesquelles on avait démarré. On avait donc démarré une équipe salariée et développé des outils de prototype. Les deux enseignements, ça a été premièrement, pour moi, c'est le plus important. C'est pas tellement la formation. La formation, c'est une autre histoire. C'est que on s'est retrouvé en étant structure un peu pionnière sur le développement d'outils de création et de diffusion de spectacles non polluants. On s'est retrouvé dans une position un peu de poisson pilote qui intéressait beaucoup des gens qui nous ont invités à venir parler dans des tables rondes, à animer des ateliers, tout ça machin. Alors que c'est pas notre boulot au départ. On n'est ni consultant ni prof ou quoi, mais on est venu beaucoup partager cette expérience-là, et notamment dans les équipes salariées, ça a commencé à prendre beaucoup de temps, en fait, et donc on s'est dit, mais en fait, ce savoir-faire-là qu'on a développé, en faisant, il faudrait le valoriser, et donc développer une activité de formation. La réflexion sur la formation, elle a aussi émergé des rencontres Armodo. Donc le réseau, je peux faire une petite parenthèse sur Armodo, on va en parler après.
Oui, tu peux le faire rapidement, puis après on va passer.
Donc Armodo, ça existe, ça fait 5 ans. Les 10e rencontres Armodo démarrent ce week-end. On est un peu triste de pas y être d'ailleurs, mais on est content d'être
à Grenoble.
À Grenoble. On se réunit donc depuis 5 ans, 2 fois par an, pour discuter de nos pratiques de faire tourner des spectacles à mode doux. Il y a une grande diversité de pratiquants et de pratiquantes. Il y a des personnes qui tournent à vélo ou en roulotte depuis 25-30 ans, et beaucoup de personnes qui manquent des projets. Et on s'aperçoit que de plus en plus, en fait, il y a un vrai mouvement, quoi. Ça se développe énormément. Et donc, on a observé qu'il y avait des besoins aussi en formation, en conseil, qui sur des personnes qui voulaient monter des projets en autonomie énergétique, en déplacement à mode doux, etc. Et que le développement d'une offre de formation à destination de ces personnes-là était intéressant, qu'il y avait énormément de formations pour les gens dans les bureaux sur concevoir la transition, mais depuis les bureaux, mais concrètement accompagner des personnes qui vont faire tourner des projets, il n'y a pas trop d'offres de formation. En fait.
Et c'est ce qui est pris en charge par le réseau, notamment quand les ateliers se retrouvent 2 fois par an lors de rencontres, et notamment ces rencontres qui font des ateliers où ils partagent leurs tips.
L'autre gros enseignement du DLA, et là moi c'est un endroit où je m'investis particulièrement, c'est réussir à nous faire la bascule dans notre manière de faire notre métier pour comment dire, aller vers des, comment dire, des modalités qui rentrent mieux dans les cases de la culture subventionnée, en fait. Et c'est extrêmement difficile. Les premières fois où on est allé à la DRAC, ils ne savent pas par quel bout nous prendre. Parce que la musique, les musiques actuelles qui tournent en vélo avec des remorques solaires, bah, c'est vraiment, ça ne rentre pas dans les cases de ce qu'ils ont l'habitude de subventionner. On nous a même, je le dis, je ne sais pas s'ils sont là ou pas, mais moi j'ai eu l'impression qu'on nous prenait un petit peu de haut, que la DRAC voulait subventionner des auteurs. C'est le terme qu'on nous a servi pour en gros nous éconduire. J'ignore s'il y a d'autres personnes dans les musiques actuelles qui réussissent à rentrer dans ces cercles-là. Mais en tout cas, nous, ça nous a fait un peu genre, ah ok, donc on n'a pas du tout les codes. Donc aujourd'hui, on travaille à essayer de fonctionner différemment. Et c'est tout à fait passionnant. On est en train de monter notre premier spectacle. Sur lequel on travaille avec des auteurs, et c'est ça change vraiment considérablement notre manière de faire, quoi.
Alors, merci de nous dire ça, parce qu'à mon avis, sur la table bleue, ça va bien rebondir sur ce sujet-là. La question là, de qu'est-ce que c'est qu'un auteur, quoi, qu'est-ce que c'est qu'un artiste plutôt, et comment on le définit, et qui est-ce qui le définit surtout, quoi. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe à Amandine. Alors, moi, je fais le pont comme ça, grâce au SoFest, et notamment, voilà, Virginie qui est ici présente, on a été intégré à des groupes de travail qu'organise la région, mais aussi le département. Et donc, notamment, voilà, on a été intégré dans le groupe Lotec, qui fait partie de la feuille de transition que vous avez mis en place, etc. On parlera après du collectif Atterrissage, mais j'aimerais qu'on parle de ça. Est-ce que tu peux présenter un petit peu... voilà, cette politique-là, et qu'on reparte après un peu plus sur, voilà, ce qu'on a dit, sur les tensions que ça pose, etc.
Oui, donc moi je suis Amandine Reynaud, je suis conseillère culturelle au développement au département de la Gironde. On a fait voter en 2021 une feuille de route, qui s'appelle la feuille de route politique croisée culture-environnement, qui en 2021 est une des premières feuilles de route de ce type, hein, dans les collectivités territoriales. Ça a pu se faire pour différentes raisons. Parce que, entre autres, on avait la spécificité dans notre département d'avoir une DGA qui réunissait la culture et l'environnement, ce qui facilitait aussi les choses, parce que le département, à ce moment-là, avait pour mot d'ordre la résilience, il l'a toujours d'ailleurs, pour plein de raisons, des gens qui avaient envie de travailler sur ces croisements-là. Donc cette feuille de route a été votée, avec au départ une ambition qui était d'avoir des moyens pour développer cette feuille de route. Parce que faire un mot doux, c'est pas toujours faire moins cher. Donc c'était vraiment allouer des moyens spécifiques à ça. Et si c'est au moins réorienter des moyens, en tout cas, vers ces enjeux-là. On a aussi beaucoup travaillé sur, dans le cadre de cette feuille de route, sur de l'expérimentation, de l'accompagnement, du changement de posture, en fait, du département. Et donc on a accompagné par exemple les festivals sur les questions de mobilité des publics. On a donc missionné le SoFest pour travailler sur une feuille de route qui a été co-construite avec plein d'acteurs, en fait, girondins, sur la Lotec, une feuille de route à destination des pouvoirs publics, en premier lieu du département de la Gironde. Pour autant, il y a plein de choses dans cette feuille de route qui dépendent d'autres échelons territoriaux, de la région notamment, je pense à la formation, etc. Qui nous a amené, en fait, à créer, à l'issue de la publication de cette feuille de route, un groupe de travail que tu évoquais, un groupe de travail low-tech qui se réunit régulièrement depuis et dans lequel le SoFest continue de participer, qui réunit aussi la région Nouvelle-Aquitaine et d'autres acteurs en fonction aussi des sujets qu'on évoque.
Bon, là, on a un moment particulier, peut-être qu'on peut démarrer là-dessus. Effectivement, bon, là, apparemment, il n'y a plus de moyens. Mais en même temps, vous êtes quand même, me semble, engagé dans cette direction-là. Vous ne voulez pas perdre cette politique que vous avez mise en place, quoi.
Donc, non, mais c'est même complètement le moment de ne pas la perdre, en fait. Donc effectivement, je disais tout à l'heure, l'idée c'est d'allouer des moyens, on n'est plus du tout dans la possibilité de cette dynamique-là. On est plutôt sur, aujourd'hui, clairement on est en train d'arrêter des banquiers de la politique publique, on est en train de baisser considérablement les subventions routières, la situation du département est connue. Mais justement, pour nous, cette feuille de route, c'est au-delà de la feuille de route en fait, hein, cette redirection de notre politique publique, elle est essentielle. Et elle nous permet aussi de redéfinir en fait la posture du département en une posture d'accompagnement d'ingénierie que je mentionnais tout à l'heure, de ne pas être que dans la subvention. On a des règlements d'intervention, ça je ne l'ai pas mentionné, mais c'est important. On n'a pas fait le choix des coûts sociaux conditionnalité, par exemple, au département. On a fait le choix de critères qui nous permettent d'orienter les acteurs et de nous orienter nous en tant qu'instructeurs sur les demandes de subventions, mais c'est des critères d'accompagnement, c'est pas de la conditionnalité, donc on reste là-dedans et c'est essentiel pour nous. Aujourd'hui on va aller de plus en plus vers ça, vers comment nous on peut accompagner en fait nos partenaires culturels sur cette transition vers plus de sobriété. Et surtout avec un enjeu que cette politique publique-là ne soit pas perçue comme de l'opportunisme économique, ce qu'elle n'était pas au départ en 2021 en tout cas. Et c'est important que...
Et aujourd'hui, ça fait quoi?
Ça peut être perçu comme ça et c'est important que ça ne le soit pas.
Okay. D'accord. Et juste, on peut en savoir un peu plus, pourquoi les conditionnalités, pour vous, ça n'était pas forcément la bonne voie pour la transition?
Oui, alors c'est bon, il y a différents. En fait, il faut savoir que tu l'as mentionné tout à l'heure, hein, on échange énormément avec la région, avec la DRAC, etc., parce qu'on est une instance spécifique sur ce territoire qui est la gouvernance partagée. Donc on sait qu'on fait tous différemment, on en parle ensemble et on le fait en complémentarité. Nous, d'abord, on accompagne au niveau du département beaucoup d'acteurs, disons plus petits, avec des plus petits budgets, des plus petites équipes que la région ou la DRAC. C'est normal, c'est notre échelon. Les causes socio-conditionnalités, elles nécessitent beaucoup de travail supplémentaire, de production supplémentaire de la part des acteurs que nous, en tout cas dans un premier temps, on ne souhaite pas demander. Et on trouvait plus intéressant à notre échelle, en fait, de redéfinir collectivement nos critères et de penser... Donc de penser le rapport au territoire, en fait c'était déjà nos critères, hein, par les compétences départementales, de fait le rapport au territoire, le rapport au public, l'ancrage territorial, tout ça c'était des choses qu'on regardait déjà. Ouais. Mais disons que maintenant on les partage davantage.
D'accord. Tu veux rajouter quelque chose? Peut-être. Ben, j'enchaîne avec Annie, voilà, côté région. Alors j'ai mis tes diapos, mais bon, l'idée c'est pas non plus.
Non, c'était juste au cas où.
Alors, je tiens la carte comme ça.
Peut-être me resituer, que je suis arrivée en novembre 2024 à la région, sur un poste très nouvellement créé, chargé de l'animation numérique, culturelle et transition. Donc, je partage mon temps entre les deux thématiques.
D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du collectif Atterrissage, voilà, et notamment la journée mobilité que vous avez organisée, et comment en gros vous travaillez notamment avec le SOFEST et aussi avec le département? Voilà, pour ce genre de transition avec votre propre feuille de route aussi.
C'est ça, donc le collectif Atterrissage, il est né en 2022. Et en fait, mon rôle en tant que chargé d'animation de transition, c'est d'animer ce collectif Atterrissage qui est fait des bénévoles, on peut appeler ça comme ça, agents de la direction de la culture et du patrimoine. Chacun a ses thématiques. Mes collègues ont souvent choisi par affinité avec leur propre thématique. Mon collègue Franck Calandé est sur le numérique responsable. Donc c'est réellement le travail de ce collectif. Sa mission à l'origine, donc, c'était de travailler sur comment réfléchir les transitions pour le secteur culturel. Aussi parce qu'on avait depuis 2019 la première feuille de route Néo-Terra, qui avait été votée avec 11 ambitions, qui a été revue en 2023 avec un resserrement. C'est exactement ça, la version de 2023
Désolé.
Désolé.
Non, c'est aussi...
J'ai essayé de faire au plus court possible, mais c'est vraiment pour resituer un petit peu à la fois les ambitions de la grande feuille de route notariale qui vaut pour toutes les directions de la région, et notre propre feuille de route culture qui a été votée là en mars 2024. Donc en effet, comme dit Amandine, côté culture et transition, c'était vraiment la Gironde qui était précurseur là-dessus. Il faut un petit peu donc resituer les éco-socio-conditionnalités qui ont été mentionnées. Elles font réellement partie d'obligations au niveau régional. Il y a eu un vote en 2023 et au niveau du développement économique, c'est déjà mis en place. Nous, on n'a pas eu trop le choix, en fait, on n'a pas fait de choix, c'est qu'on avait déjà un cadre d'éco-socio-conditionnalité à mettre en place. Et le choix que l'on a fait, c'est d'essayer de coller le plus possible à CACT pour que si un acteur qui est financé par la DRAC a des actions à mettre en place, ce soit les mêmes côté région. Donc voilà, par cohérence, c'est un petit peu le choix qui a été fait. Donc là, elles vont bientôt être mises en place. Il y en a une partie qui existait du côté spectacle vivant, et là c'était avec un bonus, parce qu'ils ont eu la chance de mettre ça en place beaucoup plus tôt, et ils avaient une petite marge qu'ils ont pu réinvestir de cette manière-là. Mais clairement, en effet, sur les prochaines éco-socio-conditionnalités, ce ne sera pas le cas, et en fait, côté développement économique, il n'y a pas de bonus du tout. Donc c'est réellement on est un petit peu obligé par un cadre de coller à ce qui nous a été mis en place déjà sur d'autres directions, en fait, et d'harmoniser. D'accord. Donc, on est quand même assez contraints, finalement.
Il y a un élément dont on avait parlé, mais qui m'a paru intéressant, c'est aussi RI, règlement d'intervention.
Oui, oui.
Voilà. Vous avez voté, il me semble, un critère qui était déterminant, justement que la fréquentation ne soit plus un critère déterminant. Dans le soutien. Donc ça, j'aimerais bien que t'en parles. Comment c'est venu ce truc-là, quoi.
Alors ça, ça va être encore soumis au vote là du prochain RI manifestation. Donc là, c'est l'idée de projet, on va dire. Mais très clairement, en effet, l'idée est encore pour faire revérifier sur une des dernières versions du projet de RI, c'est de dire que la fréquentation, même si elle est importante, n'est plus un critère déterminant. Donc cette petite phrase, elle a l'air de rien, mais je pense que elle peut aider à apporter de la souplesse. Parce qu'on a des RI qui sont quand même très, là aussi, cadrés, ce qui fait que justement, quand on a des projets innovants, on ne sait pas forcément où les caser. On avait l'appel à projet culture connectée qui nous a aidé aussi beaucoup sur la partie expérimentation et innovation. Il y a encore une partie de dispositifs côté développement économique sur des projets innovants, mais voilà, c'est vrai qu'on n'en a plus beaucoup, malheureusement.
D'accord. Merci beaucoup, Annie. Bon, je propose qu'on passe à Élie. Alors voilà, tout ce qu'on s'est dit, je suppose que ça a résonné avec tes travaux. Alors, pour savoir, je te fais une petite présentation. Élie a travaillé, en fait, sur la ville de Lerne, qui est une ville fictive. Qui était passé en 2014, je crois, le bastion PS avait perdu, et donc toute la municipalité a changé. Il a travaillé notamment sur les politiques publiques locales, et de ce que ça a fait, en gros, ce changement politique-là. Et du coup, après, il a généralisé ses travaux sur ce qu'on appelle le déclin de la petite bourgeoisie culturelle. Alors, bon, je te laisserai en parler, mais c'est en gros une fraction de classe qui nous concerne de près ici. Donc, en quoi ce que l'on vient de dire résonne avec ton site, notamment sur la réorientation des économies, etc. Toi, ce que tu as pu observer, qu'est-ce que tu peux en dire de tout ça?
Oui, alors déjà, merci beaucoup pour l'organisation et pour l'invitation. Alors effectivement, moi j'ai soutenu en 2018, ça commence à remonter, une thèse dans une ville moyenne, enfin avec une enquête ethnographique dans une ville moyenne du centre de la France, que j'ai appelé Lerne. C'est une préfecture, une unité urbaine d'environ 100 000 habitants, et une maison de la culture en 71, depuis quelques temps une SMAC, un théâtre municipal, donc voilà, des équipements qui sont vraiment le produit de la déconcentration, de la décentralisation des politiques culturelles, et c'est vraiment là-dessus que que porte ma thèse. Alors, j'ai essayé de faire démarrer un peu cette histoire aux années 70, parce que sur mon terrain d'enquête, mais en France, c'est là qu'on assiste notamment à la vague rose de 77, aux élections municipales, avec des alliances socialistes et communistes qui vont expérimenter un peu le programme commun, notamment sur le volet culturel, dans ces maisons de la culture qui ont été imaginées et créées sous Malraux, mais qui sont un peu réorientées dans ces années 70. Voilà. Alors je ne peux pas m'empêcher de regarder ce bidon qui me fait penser à mon terrain d'enquête, j'en dirai pas plus, mais voilà, pour les personnes qui ont la référence, je pense qu'il désigne directement la ville où j'ai fait mon enquête. Mais je m'arrête là.
L'air bien.
Voilà. Et donc, voilà, moi, sur ce... c'est tout ce que j'entends depuis ce matin, nos échanges, etc., font vraiment écho, en fait, à une histoire, en fait, qui se répète en partie, en même temps, qui est un petit peu différente. Cette histoire, c'est la manière dont on fait des politiques culturelles, et dont elles sont de plus en plus fléchées, c'est encore plus vrai aujourd'hui, peut-être, que dans les années 90, mais par des appels à projets. Appel à projets ou des thématiques définies comme prioritaires par les pouvoirs publics sont mises en avant. Et voilà, la question de verdir, la création, la diffusion, en fait, elle s'inscrit dans cette histoire longue. Et quand on s'intéresse aux années 90, par exemple, c'est vraiment l'émergence plutôt d'appel à projets fléchés socioculturels, avec des guillemets, dans le cadre de la politique de la ville, qui connaît une expansion énorme, et qui va vraiment participer. Alors, moi, je le vois par enquête ethnographique, mais c'est généralisable sur à peu près tous les terrains, pas que dans les villes moyennes du centre de la France, mais qui va vraiment participer à professionnaliser aussi certains acteurs de ces mondes de la culture.
C'est-à-dire professionnaliser, qu'est-ce que tu entends par là? Parce qu'on peut mettre beaucoup de choses.
Bien sûr. Se professionnaliser, c'est du coup...
Et d'où ces gens qui se professionnalisent, quoi. Ils étaient militants, ils venaient d'un soubassement plus militant, des socialisations militantes, c'est ça que tu viens de dire, quoi.
Oui, ce que je veux dire, c'est là encore, c'est un cycle, hein, je pense qu'on retrouve ça à plusieurs époques, mais moi, en me concentrant vraiment sur une génération dans les années 80 qui émerge à un moment particulier, hein, j'ai dit, on a le socialisme municipal depuis 71-77, ça dépend des communes. Évidemment, les politiques culturelles langues, je rappelle que les politiques culturelles langues, c'est 1% du budget d'État à peu près, au début, orienté vers la culture. Ça paraît rien quand on dit comme ça, mais quand on regarde ce qu'il en est aujourd'hui, bon, c'est plus du tout le cas. Donc voilà, ce mouvement de professionnalisation, il passe beaucoup dans les années 80 et 90 par les associations. Ce qui est à la fois positif et négatif. Alors pourquoi positif? Parce que les associations, on n'est pas directement lié à des collectivités, on n'est pas directement lié à des pouvoirs publics, on a sur le papier une certaine autonomie. Bon, et autonomie toute relative, parce que plus ça va, plus on avance, plus on est sur des appels à projets fléchés. Ce qui me concerne d'ailleurs au passage pas du tout que la création de la diffusion de la culture. En tant qu'enseignant-chercheur, on est tout à fait dans le même cas de figure.
Ce que tu veux dire par là, c'est qu'il faut mettre en lien le fait que les associations aujourd'hui prennent en charge, notamment, mais alors on le voit bien avec les collectivités territoriales, le coup de la transition, on pourrait le dire comme ça, en fait, d'une transition en tout cas, mais que ça doit aussi être recontextualisé dans le cadre d'un désengagement de l'État aussi là-dessus, parce que là où les associations s'engagent, effectivement, quelque part, l'État se désengage.
C'est exactement ça. Pour les personnes que ça intéresse, je renvoie notamment au travail de Mathieu Ely, hein, qui est sociologue, qui a beaucoup travaillé sur les associations, leur extension, etc., et qui montre bien exactement ce que tu viens de décrire, hein, c'est-à-dire que la forme associative, notamment pour des jeunes qui ont une vingtaine d'années, qui font du rock, qui font du punk éventuellement dans les années 80, peut leur sembler comme une manière d'être autonome, en même temps d'aller demander un petit peu des subventions, pas être complètement dans le bénévolat et s'épuiser là-dedans. Mais en même temps, il y a une contrepartie, des fois explicite, des fois implicite, et c'est l'externalisation de services publics, et notamment de diffusion de culture. Et donc, ce qu'on va voir beaucoup dans les années 90, mais qu'on continue à observer, hein, c'est comment certaines collectivités vont se départir en fait d'activités de programmation culturelle qu'elles pouvaient avoir en interne sur des associations, parce que c'est trop cher. Parce qu'une association, si d'un coup on sait plus prioritaire, on coupe les subventions, ça fait des licenciements économiques, ça ne concerne pas la collectivité. Et voilà, au lendemain quand même des municipales, on voit bien aussi comment ce modèle qui repose beaucoup sur les associations subventionnées, et il est extrêmement fragile parce que quand on change de couleur politique, tout peut d'un coup.
Et dans ce mouvement de professionnalisation des acteurs associatifs et actrices associatives avec des formations aussi derrière, hein, c'est des gens aussi qui sont formés en master potentiellement, etc. Tu dis qu'il y a un processus de professionnalisation. Est-ce que ça va de pair potentiellement aussi avec une intériorisation de ces nouvelles règles budgétaires? C'est de ça dont tu parles aussi. Est-ce que du coup il n'y a pas un risque là-dedans de transformer une forme de précarité subie en managérialisation un peu la sobriété qu'on va transformer en truc joyeux. C'est un peu ce que fait le management, hein, transformer un peu l'exploitation en truc sympa, quoi.
Ouais. Oui, bah c'est une excellente remarque. C'est des choses qu'on observe effectivement dans ces incitations par des appels à projets à verdir les pratiques. Le risque, mais j'ai bien que c'est qu'un risque, tu as dit tout à l'heure, il ne faut pas être trop pessimiste. Bon, moi, comme j'ai la casquette du sociologue, j'ai le droit d'être un petit peu quand même. Mais c'est vraiment un risque dont il faut avoir conscience, et je pense s'en saisir collectivement. Et c'est ce que disait un bon sociologue, c'est toujours pour Dieu. Mais en fait, ce que tu viens de dire me rappelle pas mal la question de la nécessité fait vertu, du choix du nécessaire, où du coup, on va se saisir de cette injonction à verdir ses pratiques aussi, parce qu'on n'a pas le choix. Et parce qu'on n'a pas les moyens de mettre en place des choses complètement énormes, je sais pas, une tournée internationale. Et donc on va pouvoir mettre en avant, se saisir de ces appels à projets sur, par exemple, décroître ou se situer hors de circuit, je dirais, qui sont très consommateurs en CO2. Et le risque, ce serait que ça participe à, je dirais pas segmenter, parce que il y a déjà une segmentation, évidemment, mais en tout cas à la marquer ou à l'actualiser et à faire en fait la création de la diffusion à deux vitesses, quoi, avec une élite qui peut se verdir de manière extrêmement superficielle, avec un peu des effets d'annonce, mais qui dans les pratiques, en fait, ne serait-ce que, je ne sais pas, si on pense à aux grands musées d'art contemporain dans toutes les grandes capitales, même si un artiste présente une exposition zéro émission carbone, etc., de fait, le public prend l'avion, se balade d'une capitale à l'autre, de fait, en fait, ça ne marche pas. Et pour moi, le risque, ce serait celui-ci, ce serait de dire, on va verdir par le bas, en obligeant un peu ceux qui, de toute façon, n'ont pas tellement le choix à le faire. Et cette étiquette de verdissement de la création, la coller à tout le monde pour mieux cacher une étiquette qui échappe.
Merci beaucoup. Peut-être d'autres choses à rajouter, peut-être des choses qui te viennent. Parce que tu vois, moi j'entendais aussi cette valorisation, il y a aussi des pratiques à mode doux, mais comme le disent les artistes qui sont ici présents, le but c'est quand même de faire du lien territorial, etc., de toucher d'autres publics sans qu'on sache vraiment qui sont ces publics, parce que c'est vrai qu'on dit souvent c'est des personnes qui ne viendraient pas au théâtre, qui ne viendraient pas. C'est vrai, mais on n'en a pas mesuré, on ne sait pas qui sont ces personnes concrètement, d'où elles viennent, etc. C'est potentiellement vrai, mais est-ce que tu penses qu'il y aurait aussi un risque, avec ces publics dits différents, s'ils le sont vraiment, qu'il y ait des formes de distinction sociale qui se mettent, parce que quelque part, un artiste qui vient en mobilité douce et il se montre dans d'autres territoires, c'est aussi quelqu'un qui arrive à valoriser son mode de vie de cette manière-là, une forme de sobriété que d'autres ne pourraient pas avoir. Et peut-être, est-ce que vraiment, je ne vais pas te dire comme ça parce qu'on n'a pas encore enquêté, c'est le but de l'atelier de cet après-midi, mais est-ce qu'il y a un risque, selon toi, ce marqueur social-là mette à distance peut-être les classes populaires plus que ne les inclut, en fait, malgré le discours, quoi.
Ouais, mais là aussi, c'est une remarque qui est hyper intéressante. Ça fait vraiment écho au travail de Jean-Baptiste Combi que tu as cité tout à l'heure. Jean-Baptiste Combi, pour les personnes que ça intéresse, vient de sortir il y a quelques temps un bouquin, un petit livre de vulgarisation qui s'appelle Écolo, mais pas trop, et qui revient justement un petit peu sur comment la norme ou les normes éco-environnementales, un des risques, c'est de s'en saisir pour faire de la distinction sociale. Et là, encore une fois, il pointe un risque. Hein, c'est pas. le sociologue qui, de sa tour d'ivoire, va dire « Regardez comment, quand vous achetez un t-shirt vert, voilà, conçu en France, etc., en fait, vous mettez à distance les classes populaires. » Il n'est pas du tout sur ce registre-là, mais il pointe vraiment un risque en disant bah, « Il faut faire attention parce que évidemment on n'a pas le choix, je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, à la transition, autant anticiper le plus possible parce qu'elle arrive, quoi. Elle arrive très vite, on va quitter l'essence aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et voilà, le risque pointé par Jean-Baptiste Combi, mais que moi je retrouve aussi dans mon enquête, alors moins sur les normes environnementales que sur des normes culturelles, tout simplement.
Voilà, on reste sur des modes de vie quand même.
Des modes de vie, voilà, dans laquelle il y a une dimension écologique. Voilà, le risque, c'est d'en faire un instrument de distinction sociale. Et d'autant plus que les groupes sociaux qui peuvent se saisir de cette norme éco-environnementale, pour certaines de ces fractions, sont très fragilisées. C'est un petit peu ce que j'essaie de travailler aussi dans ma thèse, mais comment, quand on est fragilisé socialement, on peut avoir tendance aussi à se raccrocher à ce qu'on croit le plus possible, aussi pour essayer de se réaffirmer son assurance, refaire le groupe, et contre les classes populaires. Alors, juste avant de terminer, mais il y a une chose quand même que j'aime bien rappeler à chaque fois que j'évoque cette idée. On est quand même dans un contexte politique où ce qu'on appelle la petite bourgeoisie culturelle, ou alors les bobos, je mets plein de guillemets parce que cette catégorie-là, pas du tout, en tout cas, elle est vraiment utilisée aujourd'hui dans des médias de droite, d'extrême droite, de gauche, hein, je pense à Marianne, de gauche.
Oui, je me déguise partout.
En tout cas, on retrouve beaucoup de ça dans l'espace médiatique, dans l'espace politique. Une critique de l'entre-soi, de cette petite bourgeoisie culturelle qui traite l'écologie primitive, qui reprendra à son compte, cette injonction à verdir ses pratiques pour exclure. Quand on est sociologue et qu'on regarde, je veux dire, objectivement des indices de ségrégation, scolaire, résidentiel, professionnel, c'est pas du tout la petite bourgeoisie culturelle qui est le plus renfermée sur elle-même. Hein. J'annonce, surprise, c'est la grande bourgeoisie. Plus on monte socialement, plus il y a de ségrégation, et plus il y a d'entre-soi. Donc je pense que c'est aussi important de le rappeler. Il faut être vigilant, il ne faut pas trop faire d'entre-soi, il ne faut pas utiliser l'écologie pour mettre à distance des gens qui ne l'afficheraient pas, mais il ne faut pas non plus se dire qu'on est absolument horrible et qu'on vit que dans un entre-soi, etc. Malheureusement, je crois que c'est quand même une tendance de nos sociétés actuelles à segmenter les groupes sociaux et
distribuer les groupes. Oui, individuel, c'est pas individuellement que ça se joue et c'est pas en se culpabilisant, c'est bien en changeant les structures sociales. Merci beaucoup, Élie. Merci beaucoup pour la qualité de ces échanges. Désolé, j'ai dû accélérer un peu le tempo. On a quand même 5 minutes de questions, on est un peu en retard, mais c'est pas bien grave, on mangera un peu. On aura juste une heure pour manger, ça sera.
Ah ben, c'est bien.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez rebondir sur des choses? C'est le moment. Voilà. Après, ça pourra toujours se faire après ensuite. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à prendre la parole. Je ferai passer le micro. Et sinon, voilà.
Alors, je tire un câble, mais à mon avis, il va falloir.
Bonjour, je suis Marianne Pommier, je suis directrice adjointe culture au département, je travaille avec Amandine. Et je voulais prolonger un peu les échanges sur la dynamique de gouvernance partagée et évoquer un risque qu'on est en train de vivre. Cette gouvernance partagée spectacle vivant, elle a donc été créée à l'instar des collectivités de la métropole bordelaise, à savoir la ville de Bordeaux, le département, la région, la DRAC et la métropole. On arrive à accrocher sur. Non pas sa compétence culturelle qu'elle n'a pas, mais sur les compétences qu'elle doit avoir sur la mobilité et le développement économique. Et c'est dans cette instance-là qu'on travaille cette complémentarité entre nos feuilles de route, et l'objectif in fine étant un changement de modèle de politique publique pour accompagner de nouveaux modèles de développement de projets culturels. Et ça prend du temps, c'est pour ça qu'on monte des groupes de travail qui sont plus ou moins énergivores. Enfin, c'est une gouvernance qui est quand même assez lourde à certains endroits, mais qui nous semble nécessaire. Et là, on est face à un risque aujourd'hui de changement politique de la mairie de Bordeaux, où en fait, il y a eu un alignement politique qui a permis en fait, une montée en puissance de ces sujets et du dialogue qu'on a pu avoir, notamment sur la transition écologique, au départ, cette gouvernance, elle n'était pas sur la condition, elle était sur les situations de crise des lieux culturels. Et on s'interroge sur comment ça va pouvoir se développer. Je pense que c'est un terrain d'observation qui va être assez intéressant à voir, que nous, on va vivre de l'intérieur. En tout cas, on souhaite poursuivre cette démarche, mais ça pose quand même une certaine interrogation au vu du contexte électoral de cette dernière semaine. Ouais,
question
dernière.
Je voulais
juste demander pendant
que je prends
pas le micro.
Ouais, ça
enregistre.
Ah,
c'est une précision technique.
Parce que je ne connais pas tout le vocabulaire. Vous aviez parlé de RI avec une phrase que j'ai trouvée assez folle dans le contexte sur la fréquentation des publics n'est plus déterminante. Qu'est-ce que c'est RI? Qu'est-ce que c'est?
Règlement d'intervention.
Règlement d'intervention.
C'est la.
Après, il y en a d'autres.
Règlement d'intervention, ben c'est la base en fait où on intègre tous nos critères pour pouvoir traiter tous les dossiers de demande de subvention. Donc c'est pour ça, ce que je disais tout à l'heure, quand on a des acteurs qui viennent nous présenter des projets qui peuvent être innovants, qui peuvent être super intéressants, mais si ça ne correspond pas aux critères qui ont été votés en conseil auparavant, on est parfois un peu poussé en fait. On essaie de s'arranger, c'est compliqué. Il figurait pas de manière sur le précédent RI, il figurait pas de manière comme un critère tel que c'était rédigé, c'était pas aussi flagrant. Et là, c'est vraiment une phrase. On a toute la partie liste des critères et on a cette phrase qui est dans le reste du RI. Donc c'est vraiment un effet d'atténuation, on va dire.
Merci beaucoup. Bon, on est un peu en retard, mais on fait une petite pause, 5-10 minutes, on se fera un petit café tranquille. Et puis...